podcast France Culture.
À 62 ans, notre invité est né dans le Doubs, à Montbéliard, territoire ô combien politique. Ce n'est ni Pierre Moscovici, ni Jean-Pierre Chevènement, mais elle aussi a été socialiste, de 2002 à 2015. 2 ans plus tard, en 2004, première campagne pour cette professeure d'anglais qui devient un conseillère régionale de Bourgogne sur la liste de François Patriat. En 2017, comme lui, c'est l'étiquette En Marche qu'elle choisit dans la 3e circonscription de la Côte d'Or. Elle est élue députée. Elle élimine le RN au second tour et remplace la sortante socialiste. 5 ans plus tard, même élection, autre adversaire, la France insoumise, NUPES. Elle l'emporte de justesse à 66 voix près. À l'Assemblée, cette ancienne syndicaliste de Force ouvrière soutient la réforme des retraites de 2023 et dirige les débats tendus d'une salle comble comme présidente de la commission des affaires sociales. Quelques mois plus tard, elle entre au gouvernement d'Elisabeth Borne, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Après 4 semaines de carence en janvier, elle est reconduite dans l'équipe de Gabriel Attal au même poste, ministère élargie aux personnes âgées, double défi. Elle nous dira si ce rassemblement de portefeuille est une bonne nouvelle pour les personnes concernées, pourquoi elle a quitté le Parti Socialiste et si les Jeux Paralympiques vont enfin trouver le succès. Bonjour Fadila Khattabi.
Bonjour Astrid.
Merci d'être l'invitée de Sens Politique. Je rappelle le principe de l'émission, une invitée et 3 archives pour retracer son parcours, son engagement et sa personnalité. Merci à vous de nous écouter comme chaque samedi. Vous êtes sur France Culture et nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Avez-vous lu le livre « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet ?
Oui, tout à fait. Je l'ai lu et j'ai échangé avec Victor Castanet. Je l'ai reçu à l'Assemblée nationale au moment du scandale d'Orpea.
Il dénonçait en 2022 le problème de maltraitance dans les EHPAD en France. Qu'est-ce qui a changé depuis ?
Les choses ont changé. Tout d'abord, je voudrais dire quand même, rendre hommage avant tout à tous les professionnels qui travaillent dans les établissements pour accompagner les personnes en situation de vulnérabilité, notamment pour le coup les personnes âgées. Effectivement, il y a eu ce scandale Orpea et toutes les maltraitances qu'on connaît et cela a permis de mettre en place en tout cas toute une série de contrôles. Aujourd'hui, en France, nous avons à peu près 7500 établissements. La moitié des établissements ont été contrôlés pour mettre un terme justement à ces dérives, à ces maltraitances. Et tous les établissements seront contrôlés. Mais contrôle ne veut pas dire non plus jeter l'opprobre sur des professionnels qui travaillent dans ces établissements, qui sont investis, engagés pour accompagner nos anciens.
Que disent ces contrôles ? Que tout va bien ?
Écoutez, j'attends le retour. Jusqu'à présent, il n'y a pas... Quand il y a effectivement quelques difficultés... Les agences régionales de santé font en sorte d'accompagner l'établissement pour essayer de réparer telle ou telle situation. Mais globalement, il n'y a pas véritablement de grosses dérives, de grosses maltraitances.
Il n'y a pas de dénutrition.
C'est aussi un vrai sujet sur la nutrition. Il faut effectivement accompagner les personnes pour faire en sorte qu'elles puissent bien s'alimenter, qu'elles puissent être bien accompagnées.
Il y a un rapport diligenté par le gouvernement en 2022 qui disait que 52% des résidents étaient en dénutrition modérée ou sévère. 2 ans plus tard, vous pensez que c'est fini ?
C'est un sujet. Aujourd'hui, il est aussi sur la table. Je sais que les parlementaires se sont saisis aussi de cette question. Parfois, effectivement, il faut aussi faire en sorte qu'il y ait aussi du professionnel au moment des repas. Ça demande aussi, j'allais dire, des ressources humaines parce que parfois, les personnes, vous savez, quand elles sont âgées, oublient de boire, oublient parfois de manger. Et donc, il faut être présent pour pouvoir accompagner les personnes qui sont, pour le coup, très dépendantes.
Donc, pour vous, c'est un sujet qui est au cœur de vos...
Au cœur de mes préoccupations, bien sûr, comme les sujets de la lutte contre les violences, la lutte contre les maltraitances, faire en sorte qu'il y ait des ressources humaines au sein des établissements, parce que la question, c'est aussi le manque de ressources humaines. On sait que quand il y a de la maltraitance institutionnelle, elle n'est pas volontaire, elle n'émane pas des professionnels, mais parce qu'il y a un manque de ressources humaines.
Il y a un problème d'attractivité, en effet, dans les...
Il y a ce sujet d'un manque d'attractivité. Nous avons essayé de répondre à ce manque d'attractivité en faisant en sorte, déjà par le Ségur, de revaloriser aussi les professionnels, mais malgré tout, ça reste difficile. Et je dis souvent aux professionnels, parlez aussi positivement de ces métiers de l'humain, qui sont des métiers essentiels. Et en parlant, j'allais dire, positivement de ces métiers, puisque nous accompagnons les personnes, ça donnera aussi envie aux autres personnes, aux jeunes notamment, qui ont besoin de donner du sens à ces métiers, et bien de venir dans ces métiers-là. Mais effectivement, il y a la question de la rémunération, mais pas que. Il y a aussi parfois des problématiques aussi de management.
Le 12 mars, mardi prochain, la proposition de loi Bien vieillir sera étudiée en commission mixte paritaire après son passage au Sénat, où elle a été détricotée. La loi grand âge n'a jamais vu le jour. Est-ce que c'est un sujet que vous avez abandonné ?
Non, on n'a pas abandonné ce sujet. Bien au contraire, comme vous avez vu, mon portefeuille a été, j'allais dire, élargi. Et je me réjouis de cet élargissement, dans la mesure où j'avais avant les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, j'ai les personnes également âgées, parce que, permettez-moi de dire, ce sont des sujets pour beaucoup transversaux. Quand on parle de la lutte contre la maltraitance, quand on parle des aidants, les aidants aussi sont investis aux côtés des personnes en situation de handicap, mais aussi aux côtés des personnes âgées. Quand on parle d'attractivité des métiers, quand on parle aussi des institutionnels, l'acteur majeur aussi, ce sont les départements, c'est l'interlocuteur politique, la compétence du handicap, la compétence des personnes en situation qui sont âgées, ça relève aussi des conseils départementaux, donc il est important aussi, voilà, de les mettre autour de la table. Donc tout ça, ce sont des sujets transversaux, et donc il y a une cohérence à faire en sorte de réunir ces deux publics. Et donc je m'en réjouis. Et quand on mène une politique publique volontariste à destination, par exemple, de la lutte contre la maltraitance, c'est aussi mettre beaucoup d'énergie, de moyens pour répondre et relever ce défi.
Et dans le même temps, Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'euros de coupes budgétaires sans passer par le Parlement. L'ancienne syndicaliste que vous êtes, qu'en a-t-elle pensé ?
Je veux dire que déjà, ça ne concerne pas le pôle social, enfin en tous les cas, mon portefeuille. Et il faut aussi être responsable, c'est-à-dire que le budget a été élaboré avec une prévision de croissance de 1,4. Aujourd'hui, on est à 1, donc c'est-à-dire moins de recettes. On sait qu'aujourd'hui, la dette est de 3 000 milliards, donc il nous faut aussi réduire la voilure et agir en responsable politique. Concernant mon portefeuille, je tiens à dire, pour les personnes en situation de handicap, hormis effectivement l'AAH de 230 millions, il y a une baisse, mais en fait c'est une non-consommation de l'enveloppe. Quand on a mis en place la déconjugalisation, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de perdants, et on s'est dit, il y a certaines personnes qui ne sont pas bénéficiaires de l'AAH et qui peuvent rentrer dans le dispositif. C'est la raison pour laquelle on avait mis une provision de 500 millions. Aujourd'hui, elle n'a pas été consommée, donc on a revu à la baisse effectivement cette enveloppe.
Que va-t-elle changer très concrètement pour les personnes concernées, cette proposition de loi sur le bien vieillir ?
Alors, il y a des mesures très intéressantes. Par exemple, faire en sorte qu'il y ait le déploiement d'un service public départemental dans tous les territoires, tous les départements, une sorte de guichet unique pour faire en sorte d'accompagner, d'informer les personnes de leurs droits, de travailler également sur leur parcours. Ça concernera bien sûr les personnes âgées, mais également les personnes en situation de handicap. Et on sait que les personnes en situation de handicap, pour beaucoup d'entre elles, sont aussi vieillissantes et donc elles ont aussi des exigences. Il y a par exemple une mesure que je salue, c'est celle aussi qui a été votée à l'Assemblée nationale concernant la présence d'animaux au sein des EHPAD. Ça permet aussi d'améliorer le bien-être des personnes. Il y a plusieurs mesures qui sont très bénéfiques et qui vont dans le bon sens.
Le droit d'amendement, il n'est
Monsieur
pas
Monsieur le député,
absolu.
Attendez, je vais vous redonner un petit peu de temps, puisqu'il y a des députés qui ont décidé de quitter la salle. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Attendez, Monsieur le député. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes chers collègues. On ouvre les chakras et on se tait. On ouvre les chakras, on respire un coup. Ou alors on va boire un coup. On ouvre les chakras et on... Et on suit, s'il vous plaît.
C'est vous qu'on entend, Fadila Khattabi, ministre déléguée aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Avant votre entrée au gouvernement, vous étiez la présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée, chargée d'examiner la très contestée réforme des retraites, montage réalisé par nos confrères de Quotidien. C'est une drôle de formule, vous l'utilisez souvent.
Oui, enfin, je l'utilisais aussi quand j'étais enseignante pour ramener un peu le calme dans ma classe. Je n'ai pas pensé à un moment que c'était vraiment une formule, j'allais dire, inédite. Pour moi, elle était courante, cette formule. Mais effectivement, les débats étaient tellement houleux, il y avait une ambiance électrique. Et j'ai essayé, effectivement, de faire en sorte que les débats puissent se dérouler dans une bonne ambiance autant que faire se peut et ramener le calme sur un sujet qui est extrêmement important, qui était la réforme des retraites. Et on sait que c'est un sujet extrêmement sensible. Mais en même temps, il fallait que les débats puissent se dérouler dans le respect des uns et des autres et qu'on puisse surtout s'entendre.
Quand on a été socialiste, donc opposé aux réformes Fillon ou Woerth, qui passaient l'âge légal à 62 ans à l'époque, c'est pas trop compliqué à défendre?
Non, parce qu'il nous faut, là encore une fois, faire preuve de responsabilité. Si vous comparez par exemple la situation des retraités allemands, un retraité allemand gagne 85% de ce que gagne un Français. Et pour ma part, je ne veux pas voir les pensions de retraite baisser. Aujourd'hui, on sait que le pouvoir d'achat est extrêmement important. On sait qu'il y a beaucoup de Français aussi qui ont des petites pensions. Donc, il nous fallait faire en sorte, faire preuve de responsabilité. N'oublions pas que les retraites, c'est à peu près 340 milliards et qu'on est face à un choc démographique. On aura de plus en plus de retraités. Donc, ça veut dire moins de cotisations et malgré tout, on fait en sorte que le travail soit au rendez-vous, qu'il y ait du développement économique parce que c'est par les cotisations des travailleurs que effectivement, on assure la protection sociale des Français. Et donc, il nous fallait faire preuve de responsabilité dans la mesure où nous avons 16 millions de retraités.
Mais vous, personnellement, Fadila Khattabi, vous avez changé d'avis ou c'est la situation?
Non, c'est vraiment la situation qui a changé. Et il faut faire preuve de responsabilité. Et je vous dis encore une fois, il fallait sauvegarder notre système de retraite. Pour moi, pas question de privatiser notre système par répartition, c'est-à-dire qui est basé sur la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que ce sont celles et ceux qui travaillent, qui, de par leur cotisation, garantissent les pensions de nos retraités. Donc pour moi, je voulais sauvegarder ce système et encore une fois, ne pas voir les pensions baisser comme ce fut le cas en Allemagne.
Et pendant toute cette période, vous avez eu des manifestations, comme beaucoup de parlementaires, devant votre permanence de Dijon, avec des syndicalistes de Force ouvrière que vous connaissiez sans doute.
Bien sûr, et qui me connaissent, puisque j'ai moi-même été syndicaliste pendant 20 ans. J'ai été secrétaire du comité d'entreprise, représentant du personnel. Je les ai d'ailleurs reçus, j'ai toujours voulu faire en sorte qu'il y ait ce dialogue. Et moi, j'ai essayé de faire preuve de pédagogie et leur expliquer le pourquoi de cette situation et que, effectivement, il nous fallait faire preuve de responsabilité. Le débat a eu lieu, je ne vous dis pas qu'il y a eu une entente, mais en tous les cas, j'ai fait en sorte que le dialogue social puisse véritablement s'exercer.
Oui, alors eux disaient qu'ils n'avaient pas été reçus à l'époque, mais à la rigueur, peu importe, c'est plus sur la cohérence politique
de
votre engagement.
Non, je les ai reçus, je peux vous dire que je les ai reçus.
Mais comment vous vous positionnez là-dessus? C'est-à-dire vous qui avez défendu les travailleurs au sein de Force ouvrière, et d'un autre côté, c'est eux qui manifestent devant vous, ça doit être étrange.
Oui, oui et non, parce que la situation, encore une fois, a évolué. La situation a évolué. Et je leur ai dit, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Moi, je suis pour le pouvoir d'achat et, j'allais dire, sauvegarder notre système. Et si on veut le sauvegarder, il n'y avait pas d'autre solution. Soit on augmentait à nouveau les cotisations des travailleurs et ça pesait sur le pouvoir d'achat des travailleurs, soit il fallait demander un effort aux retraités qui avaient déjà une petite pension, soit il fallait effectivement faire en sorte de sauvegarder notre système avec un rallongement de 2 ans progressif, en prenant en compte aussi les difficultés, c'est-à-dire la pénibilité, si les personnes étaient en difficulté sur le plan de la santé, prendre en compte tout cela. Alors, et on a amélioré les choses, permettez-moi de le dire, par exemple, tout ce qui était... certains contrats aidés n'étaient pas pris en compte dans le calcul de la retraite, on l'a pris. Les congés également, des congés des proches aidants.
Vous êtes à l'aise.
Oui, je suis vraiment, parce que changement. Moi, pour moi, c'était sauvegarder notre système.
Vous avez commencé votre carrière politique, je le disais en introduction, au Parti Socialiste en 2002. En 2004, vous êtes élue au Conseil Régional de la Bourgogne sous étiquette socialiste. Vous en deviendrez même la vice-présidente en 2010. Mais en 2015, vous quittez le Parti Socialiste.
Oui, je m'en vais. J'ai senti que le parti était déconnecté de la réalité, du terrain, que c'était devenu un grand parti pratiquement que d'élus. Et en fait, je sentais sur le terrain monter cette grogne. Et donc, je suis partie. J'ai fait un break d'une année. après 12 ans à la région aux côtés de François Patriat. J'ai été très heureuse d'être conseillère régionale et vice-présidente de région. Et donc, je suis enseignante, donc j'ai retrouvé ma petite vie, ma famille, j'ai refait du sport. C'était un moment aussi, voilà, de reconstruction aussi, parce que tout s'arrête du jour au lendemain. Notre dernière séance, je me rappelle, a été terrible, puisque c'était le 13 novembre 2015, le jour des attentats. Notre dernière séance plénière au conseil régional, là aussi c'était très douloureux par rapport à ces attentats. Et donc pendant un an, je décide de faire un break et François Patriat me fait un appel du pied en disant qu'il fallait que je revienne, etc., qu'on avait besoin de moi. Et il me dit, écoute, il y a Emmanuel Macron qui est extraordinaire, intelligent, brillant, mais... Moi, je ne le connaissais pas. Je savais qu'il avait été ministre. J'ai dit avec le ton de l'humour à François, à chaque fois que tu mises sur un candidat, ça fait pchit in fine.
Vous pensiez à qui ?
Il était plutôt rocardien, strauss-kahnien, et il a soutenu ces candidats-là. Donc, et là, il me dit, tu verras, Fadila, Emmanuel va être élu. Et du coup, quand je regarde après la campagne, je vois Monsieur Fillon, je vois Monsieur Hamon, le Parti socialiste complètement, en situation de crise. Hollande qui n'est même pas, c'est le premier président de la Ve République qui n'est pas en situation de se présenter. C'est inédit. Et je me dis bon, il nous reste qu'Emmanuel Macron, mais je vais aller le voir en meeting. Et quand je l'ai vu en meeting à Lyon, j'avoue, j'ai été sous le charme vis-à-vis. De son discours, très dynamique, très offensif, déterminé. C'était un nouveau style. Et je me suis dit, je vais être derrière lui et je vais faire sa campagne.
Il a pu vous décevoir parfois ?
Non. Non. Je vous le dis franchement, non. Et je le dis vraiment. Être au pouvoir, c'est difficile. Très difficile, l'exercice du pouvoir. Il a su gérer la crise sanitaire, l'inflation. La situation internationale qui aujourd'hui est inquiétante avec une guerre aux portes de l'Europe, et il a été sur tous les fronts. Pendant la crise sanitaire, moi je l'ai trouvé remarquable. Tous les Français étaient, bien sûr, il y avait le confinement qui était difficile, et tous les Français, on leur a demandé de rester chez eux, et ce fut une période difficile. Et ils ont fait preuve de beaucoup de résilience. Ils ont accepté effectivement ce confinement. Et malgré tout, le président s'est battu pour faire en sorte que le pouvoir d'achat soit maintenu, les salaires soient maintenus. C'est aussi un choix politique. Et ensuite, il est allé chercher le plan de relance européen. Et les Français ont pu en bénéficier, et ça a permis de relancer l'activité économique. Donc il a fait des choix extrêmement judicieux pour protéger toujours les Français.
À propos de votre départ du Parti Socialiste en 2015, le magazine Jeune Afrique, en novembre 2019, écrit que c'est parce que vous aviez acquis la conviction d'être instrumentalisé en raison de vos origines.
Oui, j'ai eu ce sentiment-là, effectivement, d'avoir été instrumentalisé, et je dénonce cela, parce que c'est un parti, le Parti Socialiste, qui toujours prône l'égalité des chances, et in fine, dans les actes, c'est pas toujours le cas. Voilà, donc oui, et je pense que, effectivement, je ne renie rien. Je viens du Parti Socialiste, je sais d'où viennent mes aïeux, mais en même temps, c'est un combat, l'égalité républicaine. Mais j'ai envie de dire qu'elle existe. Elle existe. Cette égalité républicaine, elle passe par l'école de la République. C'est très important de soutenir aussi les enseignants. Moi-même, j'ai été enseignante et je salue tout le travail qui est fait. Et j'ai envie de dire à la jeunesse qui est l'avenir de notre pays, croyez en vous, soyez audacieux et faites en sorte que vous puissiez réaliser vos rêves et que cela est possible.
Avez-vous déjà vécu le racisme dans votre vie politique, Fadila Khattabi ?
Oui. Oui.
À quelle occasion ?
J'en parle pas beaucoup parce que je déteste ce discours victimaire, de victimisation. Je pense qu'il ne faut pas aller là-dessus. Je pense qu'il faut rester combatif et essayer de défendre ses propres convictions et dénoncer par contre. Bien sûr, il faut dénoncer, y compris pendant la réforme des retraites. J'ai eu beaucoup de menaces et d'insultes racistes, mais je passe au-delà. Mais je peux comprendre que quand on est une personne en situation de vulnérabilité, comme demandeur d'emploi par exemple, et que vous vous sentez discriminé quant à l'accès à l'emploi par exemple ou au logement, eh bien que vous ayez une réaction parfois un peu épidermique.
Dans la vie politique, ça s'est passé au Parti Socialiste, chez Renaissance, ou dans les deux partis ?
Non, au Parti Socialiste. Je l'ai vécu à plusieurs reprises, mais je passais au-delà. au-delà.
Des remarques
Des remarques désobligeantes, oui, bien sûr, qui étaient dénoncées aussi par les militants, hein, par certains militants, hein, attention. Hein. Je ne jette pas l'opprobre sur les militants qui, encore une fois, hein, font aussi un travail de militant sur le terrain qui est compliqué, surtout aujourd'hui avec la montée des extrêmes, mais le racisme, je dis qu'il faut le combattre et que malheureusement, il existe partout dans toutes les sphères.
En 2017, vous remportez la circonscription, la troisième circonscription de la Côte d'Or face à Jean-François Batelier du RN. En 2022, face à la France insoumise, c'est plus dur d'affronter le RN ou LFI aux législatives, à votre avis ?
Je pense qu'aujourd'hui, les extrêmes sont très très forts en France. Et que ma circonscription en 2022, elle reflète en fait l'état de la France. C'est-à-dire qu'on a un vote RN extrêmement important en milieu rural, et on avait un vote extrêmement important de la NUPES LFiste dans les quartiers populaires. Et c'était le cas
de Dijon,
c'est-à-dire dans la métropole. J'ai des villes comme Chenôve, Quetigny, etc., avec des quartiers très sensibles, notamment à Chenôve, et qui ont voté effectivement NUPES. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que tout ce que nous avions fait en termes d'égalité des chances n'était pas perçu par la population. Je regarde par exemple Chenôve, j'ai dû batailler entre les deux tours pour expliquer ce que nous avions fait en termes d'égalité des chances au sein de l'école de la République, par exemple, le dédoublement des classes. 19 classes avaient été dédoublées à Chenôve dans une école, avec des conditions de travail vraiment améliorée. La cité, elle avait été aussi labellisée cité éducative, avec des moyens financiers de 145 000 euros. Et donc, tout ça n'était pas perçu par la population. En termes d'accompagnement, je le dis, la cantine à 1 euro, les petits déjeuners gratuits, un plan pauvreté de 8,5 milliards, personne n'en a parlé.
Mais est-ce que vous les renvoyez dos à dos, ces deux partis, le RN et LFI ? Vous qui vous êtes engagé en 2002, après l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour.
Je pense que quand le politique n'est pas au rendez-vous, ne répond pas aux attentes des Français, quand il y a un vide, ils ont le sentiment effectivement d'être laissés pour compte, cela nourrit effectivement les extrêmes. Les extrêmes en tout genre.
Pour vous, c'est la même chose à LFI à l'URN.
Je ne les mettrai pas dans le même, permettez-moi de le dire, dans le même sac, mais ça reste quand même aussi des extrêmes et ils se nourrissent l'un l'autre.
France Culture, Sens Politique, Astrid de Villene.
Ma question aurait pu être pour la ministre chargée des personnes handicapées, mais il n'y en a plus. Puisque finalement, avec vous, tout est une affaire d'argent, même quand il s'agit de dignité, je voulais m'adresser à monsieur le ministre de l'économie. Mon fauteuil. Regardez mon fauteuil, monsieur le ministre. Il n'est pas spectaculaire, pas extravagant, il est juste adapté, léger, maniable et sur mesure. Ce fauteuil coûte aujourd'hui 8000 euros. Ce n'est pas un luxe, c'est une question d'autonomie et de dignité. Avec les nouvelles conditions de prise en charge, mon fauteuil ne serait plus du tout remboursé.
La voix du député écologiste Sébastien Peytavi le 24 janvier dernier, lors de la séance de questions au gouvernement. Vous n'êtes pas, parce que c'est l'époque où il n'y a pas encore les ministres délégués. Que lui répondez-vous ?
Je l'ai reçu d'ailleurs à mon ministère, Sébastien Peytavi, qui est vraiment très mobilisé la prise en charge des fauteuils. C'est un engagement du président de la République. Encore une fois, c'est un engagement du président de la République et il sera tenu.
Il n'est pas tenu à ce stade alors qu'il avait promis en effet de prendre en charge intégralement le remboursement des fauteuils roulants en 2024.
Alors en fait, c'est plus complexe que cela. Il y a la volonté politique qui est réelle et je peux vous le dire vraiment, elle est là et on ne reculera pas.
Ça, ce sont des mots.
Non. Nous sommes en train de travailler, en fait, sans rentrer dans la technicité, sur la nomenclature, qui est complexe. Et vous le savez, quand il s'agit d'argent public, il nous faut être aussi prudent. Mais en même temps, il nous faut avoir un dialogue avec les fabricants et les distributeurs.
Donc,
qui
c'est
nous
une
disent...
promesse qui est non tenue, Fadila Khattabi.
Non, mais on y travaille. Je peux vous dire, je suis sur le dossier, je travaille, mes services travaillent avec l'administration concernée pour répondre à cette urgence. Parce qu'aujourd'hui, il y a des citoyens qui nous disent vraiment, moi, comment je fais sans fauteuil ou un fauteuil qui arrive en fin de vie.
Aujourd'hui, un remboursement, c'est environ 550 euros, alors que les fauteuils, parfois, coûtent milliers d'euros.
Il y a certains fauteuils qui sont intégralement remboursés.
Pas adaptés pour travailler. C'est ce que dénonce cette pétition.
C'est surtout les fauteuils qui sont spécifiques. Mais encore une fois, je tiens vraiment à rassurer nos concitoyens. Nous serons au rendez-vous.
Mais quand ?
Je vous le dis encore une fois, nous sommes en train de travailler sur la nomenclature. On a fait encore une réunion il n'y a pas très longtemps. Donc j'attends les propositions, j'allais dire, des administrations qui mènent ce dialogue avec les fabricants et les distributeurs. Parce que à ce stade, ils nous disent, au regard des remboursements, nous, on disparaît. Parce qu'il faut que ce soit aussi soutenable pour les fabricants. Donc c'est tout ce dialogue, j'allais dire, qu'on doit mener, et ce travail de la nomenclature. Et en même temps, j'ai échangé avec monsieur le député Pétavi, il y a aussi, j'allais dire, des situations ubuesques. Il me expliquait par exemple que son coussin qui était de 800 euros n'était pas remboursé, le coussin du fauteuil. Par contre, quand il demandait le dossier et le coussin, c'était 1200 euros. Et là, c'était remboursé. Donc, on assiste à des situations ubuesques.
Si on revient de l'État.
Parce que ça a été construit ainsi. C'est une vieille nomenclature qu'il faut revoir. Et je m'engage à la revoir. Et je m'engage à faire en sorte que cette promesse du président de la République soit respectée. Donc, je tiens à rassurer. Alors,
à quelle échéance,
l'été, novembre. Donc il faut qu'on travaille sur cette nomenclature. Je mets la pression sur l'administration. Je peux vous le dire que je suis sur leur dos pour faire en sorte de sortir cette nomenclature.
Et augmenter les remboursements.
Et bien sûr, faire en sorte que la prise en charge soit respectée.
Le 17 avril 2023, la France a été condamnée par le Comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe. Cette instance estime que les personnes en situation de handicap sont discriminées, souffrent d'exclusion sociale et d'entraves à leur autonomie. Quelle est la réponse politique à cette condamnation ?
On avance sur ce sujet. Effectivement, je le dis toujours, il faut que les droits des personnes soient respectés. Et encore plus quand on est en situation de handicap où les discriminations existent, perdurent, avec des préjugés qui sont encore là. Tout à l'heure, ce matin, j'étais avec une dizaine de femmes en situation de handicap qui m'ont fait part effectivement de leurs difficultés, accès à l'emploi, à la formation, accès à la santé. Donc tout cela, on y travaille. Il y a eu des améliorations. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu de fait.
Comme la loi du 18 décembre 2023 sur le plein emploi qui renforçait les droits des handicapés.
Voilà, tout à fait. J'étais au banc et je salue Olivier Dussopt d'avoir inscrit dans son projet de loi deux articles qui concernent les droits des personnes qui travaillent en ESAT. C'est extrêmement important, et faire en sorte qu'il soit aligné sur les autres, sur celui des autres salariés, à savoir par exemple la prime transport. Alors certains établissements avaient mis la prime transport, mais ça n'était pas obligatoire. Désormais, cette prime transport est obligatoire. La mutuelle aussi, une complémentaire santé, c'est extrêmement important. Ces personnes travaillent et ont droit d'avoir une complémentaire. Le droit de grève, le droit de se syndiquer, ça n'était pas le cas. Donc c'est absolument ubuesque, et là on répond effectivement aux attentes des personnes. Ça a été salué. Vous savez, mon portefeuille en fait en sorte que je n'ai pas le choix, je suis obligée de travailler avec mes collègues. Parce que c'est un travail interministériel. L'accès à l'école, je travaille avec la ministre de l'Éducation nationale. L'accès à l'emploi, je travaille avec la ministre Catherine Vautrin. L'accessibilité tout court en termes sur le logement, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps mon homologue Guillaume Kasparian pour faire en sorte que les logements soient plus adaptés et répondent aux attentes à la fois des personnes vieillissantes. N'oublions pas que d'ici 20 ans, 25 ans, nous aurons 4 millions de personnes dépendantes, c'est-à-dire qui auront besoin de services de proximité, et ces personnes, elles souhaitent rester chez elles. Donc là aussi, il va falloir qu'on soit au rendez-vous, mais également faire en sorte qu'il y ait des appartements accessibles pour les personnes en situation de handicap. C'est un vrai enjeu. On met les moyens en termes d'accessibilité, on met 1,5 milliard sur la table pour en faire en sorte que nos transports soient accessibles.
Alors la question des transports, en effet, c'est celle qui pêche toujours. 9 personnes handicapées sur 10 éprouvaient des difficultés à se déplacer. En moyenne, elles se déplacent moins que les autres, les personnes handicapées. Elles sont comme assignées à domicile. Comment comptez-vous lutter contre cette...
Alors, j'avoue que les Jeux olympiques et paralympiques sont véritablement un booster.
Donc, mais ça ne concerne pas toutes les régions.
En tout cas, pour l'instant, toutes les régions là où il y a des sites olympiques et paralympiques seront accessibles. C'est-à-dire tout ce qui est bus, tram, on va mettre en place aussi 1000 taxis PMR, il y aura aussi un système de navettes. Et je vous le dis encore sur l'accessibilité, c'est 1,5 milliard, c'est inédit. Sur également les commerces de proximité, les restaurants, les hôtels, les cabinets.
Un commerce sur deux n'est pas accessible.
Tout à fait. Alors, je profite je profite d'être à l'antenne pour leur dire mobilisez-vous, l'État va vous accompagner à hauteur de 50% avec un plafond de 20 000 euros et un cofinancement est possible. Ça n'est pas normal qu'une personne dans un fauteuil en situation de handicap ne puisse pas se rendre au boulanger, chez le boulanger du coin. Ça n'est pas normal. Et en plus, quand on améliore la situation des personnes handicapées, on améliore également celle des personnes âgées, puisque en plus nous sommes un pays vieillissant. Donc on aura des personnes âgées qui auront de plus en plus de difficultés à se déplacer. Donc là aussi, on a un défi énorme. Et puis également, le confort des parents. J'allais dire, un papa ou une maman qui arrive avec une poussette, c'est quand même plus agréable d'accéder à la pharmacie, au cabinet médical, etc. Donc il y a un défi énorme et nous sommes pleinement mobilisés. Encore une fois, l'argent. L'État met les moyens financiers comme jamais. Ils sont inédits. Donc j'ai envie de dire, allez-y. Tout comme également, réhabiliter son logement, faire en sorte que son logement soit accessible. Là aussi, il y a la prime adapte.
Qui a dit en 2017 « Je ne veux plus de personnes en situation de handicap sans solution éducative » ?
Probablement le président de la République.
Encore une promesse non tenue.
Ah non, vous ne pouvez pas dire ça, Astrid. Non, non.
Alors j'ai vu le film « La lettre au président » diffusé sur handicap.fr qui s'intéresse aux élèves en situation de handicap dans le Val-de-Marne. Elles interpellent Emmanuel Macron en disant qu'il y a encore 4000 élèves qui sont déscolarisés dans ce seul département.
Oui, il y a encore des choses, mais malgré tout, il ne faut jamais regarder le verre à moitié vide. Regardons quand même ce qui a été fait depuis 2017. En 2017, je me permets de rappeler quand même, Astrid, il y avait 49 000 assistantes de vie scolaire. Pas de statut, pas formées, au ministère du Travail. Aujourd'hui, nous sommes à 136 000 AESH. 136 000 transférés à l'éducation nationale, c'est le deuxième poste de l'éducation nationale, pour accompagner 470 000 enfants, soit 40% de plus. Nous avons fait beaucoup de quantitatifs. Aujourd'hui, il nous faut faire du qualitatif. Parce que l'AESH, bien sûr, elle est formée, mais elle n'est pas formée sur le plan du médico-social. Il nous faut faire en sorte que d'introduire en tout cas les professionnels du médico-social au sein de l'école de la République. Parce que quand vous êtes enseignant, et je l'ai été, et j'ai été moi-même confrontée à des situations de handicap, vous vous sentez en tant qu'enseignant démuni parce que vous n'avez pas la formation, parce que ça n'est tout simplement pas votre métier.
Mais il manque des AESH, notamment en raison du manque d'attractivité dont on parlait.
Et pourtant, on a quand même amélioré le statut des AESH, puisque cette année, à la rentrée, il y a eu une revalorisation de plus de 10%. C'était des statuts auparavant précaires. Elles ont aujourd'hui la possibilité d'être en CDI après 3 ans. Donc ça n'est pas rien. Donc c'est un véritable statut. Ce sont des vraies compétences reconnues aujourd'hui. Et il nous faut faire en sorte, cette fois-ci, de donner aussi un temps plein. Parce qu'elles interviennent, elles n'ont pas un temps plein. Donc ce qu'il nous faut, c'est aussi travailler sur le temps méridien, sur le périscolaire, pour leur permettre effectivement d'accompagner l'enfant, j'allais dire, sur toute la journée. Parce que l'enfant qui est accueilli à l'école, sa vie ne s'arrête pas à 11h30 ou midi. Donc il nous faut aussi l'accompagner sur le temps méridien.
Donc le temps plein va pouvoir être possible.
Bien sûr, on y travaille. C'est déjà possible. Il y a déjà des collectivités qui passent des conventions pour faire en sorte de proposer à ces AESH un travail sur le temps méridien.
Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit débloqué? Parce que dans ce film, en effet, beaucoup déplorent ce salaire de 700, 800 euros par mois.
Alors, il y a actuellement une proposition qui émane d'un député LR qui prévoit effectivement de faire en sorte que le temps méridien soit pris en charge par l'État. Parce que ce qui est compliqué, c'est quand il y a des collectivités qui sont effectivement très allantes, d'autres moins, et donc, ma foi, il y a des trous dans la raquette. Demain, et encore faut-il que la loi soit votée par l'ensemble du Parlement, demain, ce temps méridien sera pris en compte, et donc ça permettra à celles et ceux qui le souhaitent d'avoir un temps plein.
Vous la soutiendrez, cette proposition?
Bien sûr, bien sûr.
Elle est attendue pour quand?
Eh bien, je ne sais pas son inscription, quand elle aura lieu à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr. Là, ça dépend du Parlement. Je ne vais pas m'immiscer sur le travail parlementaire.
Une question de Charles à Paris. Beaucoup de sites internet, y compris gouvernementaux, ne sont pas accessibles aux personnes déficientes visuelles. Que comptez-vous faire pour y remédier?
Il y a 60 millions d'euros qui sont mobilisés là-dessus pour faire en sorte que tous les sites publics, tous les sites publics, évidemment.
Les mairies, les impôts.
Voilà, donc justement, et je réunis les préfets référents handicap pour leur dire de mobiliser les pouvoirs publics sur cette question d'accessibilité, et notamment l'accessibilité numérique. On y met les moyens, il y a 60 millions d'euros, donc il faut y aller.
Là pour 2024.
Oui, c'est, voilà. Et également, bien sûr, il faut aussi sensibiliser tout le secteur privé. J'allais dire, vous savez, le handicap, c'est aussi l'affaire de toutes et tous, de toute la société. Il faut embarquer toute la société. J'allais dire, pareil, on a les pouvoirs publics. Un enfant, une maman qui a un enfant en situation de handicap aujourd'hui, ça n'est pas normal qu'elle ne trouve pas une place en crèche pour mettre son enfant. Du coup, elle arrête de travailler pour accompagner son enfant. C'est aussi, quelque part, la mener à la paupérisation. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de femmes qui sont monoparentales, qui accompagnent seules un enfant et qui sont obligées de s'arrêter de travailler faute de structure. Là aussi, il nous faut mettre les moyens et on y va.
Comment faire pour changer le regard de la société sur le handicap, Fadila Khattabi, vous qui êtes ministre déléguée en charge de cette question?
Alors, je mise bien sûr sur les Jeux paralympiques. Je pense que ça va être vraiment un véritable booster, mais pas que. Je pense aussi qu'il nous faut commencer, si on veut changer le regard et la vie, parce que ce qui est aussi important, c'est changer la vie des personnes en situation de handicap, dès le plus jeune âge. Il faut qu'il y ait une véritable mixité dès le plus jeune âge, dès la crèche. Et tous les enfants qui auront vécu justement avec les autres enfants en situation de handicap, quand ils deviendront adultes, pour eux, c'est normal. Et donc, seront plus enclins, j'allais dire, à faire en sorte de les intégrer dans les entreprises, à les intégrer, pareil, l'accès au logement, qui est parfois une problématique, parce qu'on se dit, oh, elle est en situation de handicap. Et pourtant, la personne travaille, elle a les moyens, et parfois, elle se trouve confrontée quand elle révèle son handicap ou quand son handicap est visible. Donc là aussi, c'est un changement, j'allais dire, radical du regard qu'on doit avoir, mais cela commence par l'école et dès le plus jeune âge.
Vous parlez des Jeux paralympiques qui se tiendront du 28 août au 8 septembre, mais il reste encore environ 2/3 des places qui n'ont pas trouvé preneur. Comment l'expliquer ?
Écoutez, oui, parce que probablement aussi c'est à la dernière minute qu'on achète les billets, donc il y a peut-être aussi une campagne à mener là-dessus. En tous les cas, moi, ce que j'ai envie de dire aux Français, soyez au rendez-vous. Ça va être un moment formidable pour notre pays. En plus, les Jeux paralympiques, c'est la première fois que la France organise ces Jeux paralympiques. Et on a besoin de ces Jeux. J'espère sincèrement que tout le monde sera au rendez-vous de ce grand moment, de ce grand événement international qui va faire rayonner notre pays, qui va faire rayonner Paris dans le monde entier. Et on attend 12 millions de touristes. Ça va occuper aussi, il faut le dire, nos hôtels, nos restaurants. Ça va faire tourner l'économie. Donc, soyons au rendez-vous et partageons ensemble ce moment festif.
Il reste 2 millions de places quasiment.
On va faire en sorte de faire une campagne pour pouvoir faire en sorte de les vendre, ces billets.
Vous la ferez, vous, au ministère, Fadila Khattabi?
Écoutez, j'en parlerai systématiquement.
Force ouvrière se joint à la CGT pour déposer un préavis de grève pendant cette période olympique. Que pensez-vous de cette initiative?
Écoutez, moi, pour avoir été aussi moi-même syndiquée, moi, je respecte, j'allais dire, vraiment le travail des syndicats et le droit de grève. J'allais dire, la grève est un droit inscrit dans la Constitution. Après, je me dis, est-ce le bon moment, d'empêcher les Français de s'amuser un peu en cette période qui est quand même difficile? Les Français ont besoin aussi, à un moment donné, de se détendre, de s'amuser. Et je trouve ça un peu dommage, un peu dommage.
Vous le regrettez ?
Oui, je le regrette parce que franchement, je vous dis, c'est un rendez-vous international et on est attendu. Donc j'espère qu'en tous les cas, le dialogue social avec les syndicats va pouvoir aboutir pour qu'il n'y ait pas de grève.
Une question de Quentin qui nous écrit sur Instagram. Trouvez-vous judicieux de rapprocher les personnes âgées et handicapées au sein d'un même ministère ? Vous n'êtes pas la première à cumuler ces deux fonctions. On a déjà connu à droite Philippe Bas en 2007 ou Catherine Trautmann en 2001, par exemple.
Écoutez, moi, en tous les cas, ce que je constate après cette nomination, c'est que le secteur, globalement, les acteurs saluent.
Des deux côtés.
Oui, vraiment, Et ça avait été demandé aussi par les acteurs, puisque, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les sujets sont transversaux. Il y a des spécificités, bien sûr, mais les sujets, la perte d'autonomie, concernent les deux. Le respect des droits des personnes âgées et le respect des personnes en situation de handicap concerne les deux publics. La lutte contre les violences également, la maltraitance également, les aidants, l'acteur principal, je vous le disais, ce sont les départements. Donc on a des il y a beaucoup de sujets en commun qu'il nous faut porter. Et par contre, je tiens à rassurer les personnes en situation de handicap, cela ne se fera pas au détriment des politiques à destination des personnes en situation de handicap.
Sens politique, l'archive de l'invité.
L'avenir des enfants de la République reste encore par trop déterminé par le nom de famille, l'endroit où l'on est né, le milieu auquel on appartient. C'est la pire des injustices, l'inégalité de départ. La promesse républicaine, c'est celle de l'égalité des chances. Et au fond, je veux qu'on mette fin à cette France du « ceci n'est pas pour moi » ou « ceci n'est pas pour toi », de ces enfants qui continuent à se dire que parce qu'ils viennent de ce quartier, qu'ils ont ce nom, l'accès à telle formation ou tel diplôme, l'accès à la culture ne leur est pas dû, n'est pas un droit pour eux. Ça existe, c'est une réalité.
La voix d'Emmanuel Macron depuis l'Élysée le 16 janvier dernier, lors de son grand rendez-vous avec la nation qui s'est transformé en conférence de presse. Pourquoi cet extrait, Fadila Khattabi ?
Enfin, en entendant le... Je suis même émue.
Pourquoi vous êtes émue ? Parce qu'il parle un peu de votre parcours. Ce sont vos origines algériennes, le fait que votre père était un ouvrier...
Non, mais je me retrouve dans les paroles du président de la République. Parce qu'en fait, même moi, je me suis mis pendant très longtemps, j'ai lutté. Je me suis dit, c'est pas pour moi. Parce qu'on est élevé aussi avec cette idée qu'on n'est pas à notre place. Et qu'il faut lutter. Il faut lutter.
Comment vous avez fait, vous, pour lutter
parce que
contre
j'étais
cette
aussi...
assignation ?
Parce que j'étais peut-être aussi quelqu'un d'assez résilient. Voilà, j'étais assez combative. J'ai eu aussi peut-être un peu de chance. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Le fait d'avoir été aussi enseignante me dit, c'est possible. C'était la première étape. Et en fait, quand je regarde la société comme elle est aujourd'hui fracturée, je me dis, mais il faut qu'on retrouve justement cette confiance en soi et que ça n'est pas normal qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent mises à l'écart alors qu'elles ont un rôle à jouer dans la construction de la France que nous voulons fraternelle, solidaire.
À quoi elle ressemblait votre enfance, Fadila Khattabi ?
Mon enfance, j'aime pas parler beaucoup de moi, mais oui, ça a été... Ça a été plutôt une lutte, voilà, une lutte au nom de l'égalité. Voilà, j'ai toujours, parce qu'on a été éduqués comme ça, vous savez, c'était de se dire un jour ou l'autre, on va repartir au pays, on a été éduqués avec le mythe du retour.
En Algérie.
Oui, j'ai beau être née en France, vous savez, l'exil, c'est ce que je dis, ça n'est jamais quelque chose, j'allais dire, de bien vécu, il y a quand même une souffrance. Et en fait... quand on est après adolescent, adulte, mais notre pays, c'est la France. Il n'y a pas de retour possible pour nous. Même si on aime le pays de ses aïeux, on est français, on se sent français. Et le président, je me retrouve pleinement dans ses paroles.
Et vous étiez à l'aise avec la loi immigration qui ne donnait pas les mêmes droits aux étrangers et aux Français sur certains aspects.
Oui, la sortie du texte de l'Assemblée, oui, j'étais à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, il nous faut être ferme avec celles et ceux qui n'ont pas resté sur le territoire national. Mais il nous faut aussi faire preuve aussi de cohérence à un moment donné. On sait que sur le territoire national, nous avons des personnes qui veulent s'intégrer, qui veulent travailler, qui veulent contribuer au développement du pays. Et aujourd'hui, devant le manque de ressources humaines partout sur le territoire, on a effectivement des entreprises qui recherchent des ressources humaines. Et je me dis, il faut leur donner la chance.
Dernier mot, que diriez-vous à des jeunes qui nous écoutent d'origine modeste et qui peut-être aimeraient avoir le même parcours que vous ?
Croyez en vous, soyez audacieux et la France est un beau pays.
Merci Fadila Khattabi d'avoir été l'invitée de Sens Politique. Je rappelle que vous êtes la ministre déléguée aux personnes âgées et aux personnes handicapées dans le gouvernement de Gabriel Attal. Merci à toute l'équipe, à la préparation Anne-Claire Bazin, à la réalisation Perré Legras, à la technique, Jordan Fuentes, à la vidéo Valentin Bobinet. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.